Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
C'est mardi, alors on parle d'histoire.
Les actualités de l'histoire avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
Bonjour Dave Noël.
Bonjour Antoine.
Dave Noël, notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au Devoir, auteur entre autres de Montcalm, général américain. Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Alors parlons hockey, hein? C'est une vieille tradition au Québec. Le directeur général du Canadien vient d'être nommé, là, ça fait les manchettes. Et le gouvernement Legault surtout a un ministre responsable du retour des Nordiques. D'ailleurs Dave, écoutons-le tout de suite, c'est Éric Girard, le ministre des Finances, qui parlait, je crois que c'était le 25 novembre dernier.
Il y a plein de gens qui sont intéressés pour une équipe à Québec et je suis surpris de l'enthousiasme que ça génère. Écoutez, hier soir, j'essayais de relaxer et j'ai pas pu m'empêcher de voir tout un débat à TVA Sports sur le retour des Nordiques. Ça génère énormément d'intérêt. Il y a plein de gens qui sont intéressés à participer à ce projet.
Tu trouves qu'il y a peut-être des précédents dans l'histoire?
Oui, c'est ça, exactement. Jeudi dernier, donc, on apprenait que le ministre des Finances, Éric Girard, rencontrait virtuellement Gary Bettman, le commissaire de la Ligue nationale de hockey. Et rapidement, c'est ça, le surnom de ministre des Nordiques s'est imposé, a été accolé à Éric Girard. Mais donc, le gouvernement du Québec a déjà eu un ministre du Canadien. Donc, on remonte aux années 1920-1930. À l'époque, on est dans le gouvernement Taschereau. Et puis, on a un dénommé Athanase David,
ah oui?
qui est le grand-père de l'ancienne députée Françoise David,
mais
et
oui.
de l'actuelle députée libérale Hélène David.
C'est ça.
Lui, à l'époque, il est donc secrétaire de la province de Québec.
Ça fait mal. À chaque fois que tu dis ça, là.
C'était le titre officiel donc, qui lui était accolé. C'est une sorte de ministre de la culture à l'époque, parce que le ministère de la culture n'existait pas.
Oui.
Et tout ce qui relevait un peu de ces domaines-là, lui, était attribué. Par exemple, c'est lui qui a fondé les Archives nationales, il a fondé le Musée des beaux-arts. Donc, c'était vraiment comme un embryon de ministère de la culture, le secrétariat de la province de Québec. Lui, donc, il est ministre et en même temps, il est président du Canadien de Montréal entre 1921 et 1935.
Ah oui!
À l'époque, on avait des doubles mandats parfois un peu étranges.
Oui.
Ça, c'en était un.
Et puis, surtout à l'époque Taschereau.
Oui.
C'était dingue. Je pense que le premier ministre lui-même siégeait à certains conseils d'administration.
Oui, d'ailleurs, c'est ce qui aurait un peu retardé aussi la nationalisation d'hydroélectricité à l'époque. Et puis donc, lui, quand même, il s'est retrouvé président. C'est un peu un concours de circonstances. C'est qu'Athanase David, c'est un avocat, et c'était l'avocat de Léo Dandurand qui a fait l'acquisition de l'équipe en 1921. Et puis, ce qui était un retour de l'histoire intéressant, c'est que ce qui l'a amené là, c'est la grippe espagnole. Parce que le propriétaire précédent du Canadien est décédé de la grippe espagnole en 1921, donc des suites de la grippe.
Okay.
Et puis donc, c'est à ce moment-là que Léo Dandurand, avec des partenaires, a acheté l'équipe pour 11 000 $ Et puis, Athanase David était son avocat. Donc, il est devenu président de l'équipe à ce moment-là.
11 000 $
Oui, une somme. Mais d'ailleurs, quand ils ont revendu l'équipe en 1935, ils ont fait un bon profit puisqu'ils l'ont revendu pour 165 000 $ Donc, une bonne somme.
Oui.
Puis, Athanase David, en décembre 1921, c'est lui qui fait la mise au jeu officielle du premier match de la saison locale du Canadien, qui jouait à ce moment-là contre une équipe basée à Hamilton. La partie était disputée à l'Aréna Mont-Royal. Et puis, à l'époque, c'était un peu moins prestigieux qu'aujourd'hui. La Ligue ne comptait que 4 équipes.
Oui.
C'était avant l'expansion qui allait suivre. Et puis, un point intéressant, c'est que la mise au jeu, Athanase David l'a fait aux côtés du fameux Irénée Vautrin, qui va être...
pas les culottes à
oui,
Vautrin.
Oui, tout à fait, dans le futur ministre de la colonisation, qui va être ridiculisé par Duplessis pendant les comptes publics. Et dans la mémoire populaire, ça a été surtout véhiculé par la série Duplessis, où on a pu voir cet épisode-là circuler. En fait, c'était le ministre de la colonisation qui avait...
Il s'était fait payer des pantalons.
Oui, des pantalons, et puis ça s'est retrouvé dans les comptes publics, et donc ça avait contribué à la chute du gouvernement de Taschereau. Mais donc, revenons à Athanase Blavine.
Ça tient à rien, au gouvernement.
À très peu de choses, oui. Une paire de pantalons. Et puis, donc, c'est ça. Athanase David, à l'époque où il est président du Canadien, le Canadien compte uniquement des joueurs francophones, à part le dénommé Sprague Clegg Horn, qui est un joueur assez...
Scandinave ou?
Non, c'est un joueur anglophone, un peu, un peu rustre. Et puis, le Canadien, à l'époque, c'est pas une puissance. On est avant la décennie de Maurice Richard. En 1921, quand Athanase David devient président du Canadien, l'équipe n'a seulement qu'une seule Coupe Stanley, celle de 1916. Ils auraient pu en gagner une deuxième en 1919. Ils se sont rendus en finale de la Coupe Stanley, mais la grippe espagnole a décimé une partie de l'équipe. Et puis, c'est la seule saison qui avait été annulée jusqu'aux années plus récentes, quand il y a eu des grèves.
Un autre parallèle avec notre époque. Hein?
Tout à fait. Donc, en 1921, Athanase devient président. La Coupe Stanley suivante est remportée en 1924. Et d'ailleurs, il y a un grand banquet qui est organisé. Puis, dans les journaux, on voit des discours d'Athanase David qui porte un toast au roi d'Angleterre. Et puis, on se rappelle que donc c'est le secrétaire de la province de Québec, qui a un volet plus culturel. Et il rappelle que le sport permet de prolonger la vie et de maximiser son rendement intellectuel. Donc, il réussit à faire un lien avec ses fonctions.
Est-ce qu'il y avait une aide de l'État
Ça demeurait privé, mais lui, okay. Il avait les deux chapeaux.
Oui.
Et puis, en 1924, lors de cette Coupe Stanley-là, c'est le moment qui est assez célèbre chez les amateurs de sport. C'est le moment où la Coupe Stanley est perdue momentanément. au bas de la côte Saint-Antoine à Montréal, les joueurs sont en voiture, ils viennent de célébrer, et puis la voiture ne parvient pas à monter la côte, donc ils descendent tous. Il y en a un qui dépose la Coupe Stanley par terre et ils repartent chez Athanase David pour un autre banquet. Et puis, sur place, ils se rendent compte qu'ils ont oublié la coupe et ils retournent sur place la chercher. Et elle était toujours là, battue au grand vent, selon les comptes rendus de l'époque.
Elle se rappelle d'une anecdote célèbre, me donne envie d'écouter une petite chanson, Dave. Sous la présidence de David, est-ce qu'il va y avoir d'autres Coupes Stanley?
Oui, sous la présidence d'Athanase David, le Canadien va remporter deux autres Coupes en 1930 et en 1931. À ce moment-là, on est rendu à 4 Coupes Stanley pour les Canadiens sur les 24 qu'on va connaître au total.
Il est encore ministre? Il est encore secrétaire de la province?
Oui, tout à fait. C'est en 1935 que les propriétaires, Léo Dandurand, qui était vraiment le maître à bord de ce projet-là, ils décident de vendre l'équipe. Il y a des rumeurs de déménagement. Les Canadiens auraient pu partir à Cleveland.
Oh.
Et finalement, l'équipe est rachetée par le Canadian Arena, qui est une société propriétaire des Maroons de Montréal, qui était l'équipe anglophone, parce qu'à l'époque, on avait des équipes par nationalité. On avait une équipe irlandaise avant ça, une équipe canadienne-française qui était le Canadien, le bleu-blanc-rouge.
Un peu comme nos commissions scolaires aujourd'hui. C'était linguistique.
Tout à fait. Les équipes étaient linguistiques. Et les Maroons, c'était l'équipe des anglophones. Et puis, 3 ans plus tard, cette équipe-là va disparaître. Et à ce moment-là, on peut vraiment dire que les deux équipes ont fusionné.
Ah oui.
Et par la suite, il y aura de plus en plus de joueurs anglophones dans le Canadien. Donc, c'est un point tournant.
Et Athanase David, que devient-il?
Oui, en 1935, l'équipe est vendue. Il perd ce chapeau-là. Et en 1936, il ne se représente pas aux élections. Et il va être élu, par contre, en 1939. Et Godbout, qui devient premier ministre en 1939, libéral, va lui offrir la présidence de l'Assemblée. Il va la refuser. Il considère que ce n'est pas prestigieux. Et puis, on le nomme sénateur à Ottawa. C'est là qu'il va terminer sa carrière. Il va être en poste jusqu'à sa mort.
Qui survient à quelle année, déjà?
En 1953.
Bien. Même année que Staline. excuse-moi. Donc, est-ce que les deux élus David dont tu as parlé tout à l'heure, Françoise David, Hélène David, ont déjà parlé de leur grand-père et du Canadien?
Oui, du moins, Françoise David en a parlé dans une entrevue. C'est un personnage qui est demeuré vivace dans la mémoire familiale, visiblement.
Oui. Puis Hélène David, quand elle était ministre de la Culture, j'imagine qu'elle se sentait comme une successeur de son illustre grand-père qui avait été secrétaire général de la province.
Ça devrait lui demander, oui.
Oui, exactement. Deuxième sujet maintenant, Dave, t'as un scoop du passé, une primeur du passé.
Oui, ça concerne le gouverneur Montmagny, qui a été caviardé par la loi d'accès à l'information. En fait, c'est un scoop de l'historien Gaston Deschênes, qui tient un blog très intéressant. Gaston Deschênes, c'est un ancien bibliothécaire du Parlement, un historien. Et lui, il a voulu obtenir...
Un expert du Parlement.
Un expert du Parlement, incroyable. Oui, du patrimoine notamment. Oui. Et lui, il a voulu obtenir par accès à l'information un rapport de 1978 produit par la Direction générale du patrimoine du ministère de la Culture concernant le manoir de l'île aux Grues. L'île aux Grues, qui est pas très loin de Québec, une soixantaine de kilomètres. Sur cette île-là, on trouve un vieux manoir. Et lui, il voulait avoir des informations historiques sur un volet architectural très précis. Donc, il fait une demande d'accès à l'information pour obtenir ce rapport-là. Et puis, après 3 mois, on finit par lui envoyer. C'est toujours très long, quand on passe par l'accès à l'information, qui est une loi qui doit normalement nous permettre d'obtenir des documents.
Mais c'est la loi de non-accès à l'information.
Qu'on la qualifie souvent, oui. Les critiques de la loi aiment bien l'appeler comme ça.
Dont je fais partie.
Et donc, quand il a enfin reçu le rapport, à sa grande surprise, le document était caviardé de bout en bout. Caviardé, donc il y a des passages qui étaient surlignés à l'encre noire.
Mais voyons,
pour empêcher sa lecture.
Un document, quoi, du 17e siècle?
Non, c'est un rapport de 1978 qui est très, très peu controversé. Qui refait la chaîne de titres du manoir depuis la cession de l'île au complet à l'époque de la Nouvelle-France. Et on a vraiment caviardé tous les noms en évoquant 3 articles, dont un qui précise qu'un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Montmagny, en l'occurrence, est décédé en 1657.
Difficile à rejoindre, Montmagny.
On comprend que c'est une application un peu aveugle de la loi. Montmagny, qui est-il? On peut en profiter pour faire un petit rappel. C'est le premier gouverneur de la Nouvelle-France. On pense souvent que c'est Champlain.
Ben oui.
Champlain n'était que le vice-roi de la Nouvelle-France, que le lieutenant du vice-roi de la Nouvelle-France.
Bon.
Il n'était pas gouverneur. C'est Montmagny qui est le premier gouverneur. Il est en poste de 1636 à 1648. C'est lui qu'on va nommer d'abord Ononcio du côté des Autochtones. Ononcio qui signifie « grande montagne ». C'est un titre qui va rester après ça pour tous les gouverneurs de la Nouvelle-France qui vont se succéder.
Ononcio.
Jusqu'à Vaudreuil, oui. On le surnomme comme ça chez les peuples autochtones de l'époque.
Okay.
Et Montmagny, on le connaît surtout parce que quand Maisonneuve est arrivé dans la colonie, il a tenté de le convaincre de s'installer, non pas à Montréal, comme il le voulait, mais à l'île d'Orléans pour renforcer la colonie plutôt que de la disperser alors que nous sommes en pleine guerre iroquoise. Donc, c'est surtout pour ça qu'on le connaît. Et puis, lui, on va lui...
intéressant.
Montmagny, on va lui concéder...
On aurait pu avoir, le Canadien de Montréal, de l'île d'Orléans.
Oui, en supposant que la démographie aurait suivi. Et donc, en 1646, Montmagny obtient la seigneurie de la Rivière-du-Sud, qui comprend l'île aux Grues. Donc, c'est pour ça qu'il se retrouve à être mentionné dans ce rapport-là que Gaston Deschênes a tenté d'obtenir. Et ça, c'est une affaire donc, qui remonte à l'automne dernier. C'est récent, mais c'est quand même un exemple... spectaculaire d'une faille de la loi d'accès qui en frustre plusieurs. Et d'ailleurs, dans son blog, Gaston Deschênes rappelait que les gouvernements d'autrefois en Nouvelle-France pouvaient décider arbitrairement si un document devait être rendu public ou du moins dans la France d'Ancien Régime et que là, on se retrouve avec ce genre de situation-là. Il trouvait ça assez désolant.
On n'a pas évolué depuis la Nouvelle-France en matière d'accès à l'information. C'est un peu déprimant. Et c'est sur cette note déprimante que se termine l'excellente chronique de Dave Noël. Merci infiniment, Dave.
Merci, Antoine.
C'était les actualités de l'histoire. Et c'est ainsi que se termine La Haut sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.